Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de process design packaging intégré chez Decathlon avec Jérémy Pipe, directeur design packaging. Après nous avoir présenté son parcours, il nous explique l'organisation des projets packaging autour de leurs deux grandes fonctions, la protection et la communication. En tant que directeur, il s'est donné comme mission de fédérer autour du métier de designer packaging, de manager des équipes de designers internes et externes et développer des stratégies packaging. Nous échangeons donc sur le process interne, nous parlons impact environnemental et déploiement des règles définies pour Decathlon au niveau des différentes marques, puis nous abordons la question de la valeur perçue et l'impact du packaging sur l'image de marque en tant qu'outil d'aide à la vente faisant partie d'un tout. Jérémy aborde donc l'expérience utilisateur en général avec le packaging, qu'il soit en point de vente ou en e-commerce. Si vous aimez notre podcast, pensez à le noter et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez notre actualité sur notre site acdi-asso.fr. Merci à vous.
Bonjour Jérémy, merci d'accepter d'enregistrer un podcast avec nous. Pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours, s'il te plaît ?
Plaisir. Bah déjà, merci de la proposition du podcast. Hein, parce que je pense que comme tous les designers, on est assez passionné par notre métier et puis partager sa passion, c'est toujours un plaisir. Donc, merci pour ça. Pour mon parcours, alors avant d'intégrer le monde du design, j'ai eu un parcours, je ne vais pas dire chaotique, mais assez compliqué au démarrage où j'ai passé 3 fois le bac. Alors, ça fait rire beaucoup, mais pour moi, c'était moins drôle à l'époque, je vous l'avoue, mais finalement, ça m'a beaucoup servi parce qu'en fait, ça m'a permis de me rendre compte que quand quelque chose ne me plaît pas, c'est très compliqué pour moi d'aller à l'encontre de ce que j'aime vraiment et de faire ce que j'aime. Et du coup, ça a été un passage compliqué, donc j'ai quand même insisté, je l'ai fini par l'avoir, donc un bac scientifique. Pour ensuite me diriger vers un UIT génie conditionnement emballage, alors directement dans le packaging, qui est mon domaine de prédilection. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ma grande sœur a fait des études de packaging aussi, donc elle est ingénieure packaging, et une fois, elle m'a demandé de faire un graphisme pour un pack, parce qu'à l'époque, sur l'ordinateur de la maison, il y avait une version de Photoshop, et moi, à l'époque, je m'amusais déjà énormément avec ça, à retoucher des photos, faire des petits dessins, et c'est quelque chose qui m'animait fortement, et elle m'a demandé ça. Et ça a fait un petit déclic dans ma tête, elle me dit, oh, tiens, c'est un domaine qui pourrait être intéressant. Donc, en étant un peu perdu au niveau du bac, en me disant, bon, qu'est-ce que je vais vraiment faire ? Je me suis dit, bon, bah, allez, je tente. Et finalement, bah, ça m'a plu. L'IUT était encore un peu technique, mais avec beaucoup de projets de conception, donc c'était assez cool. Et puis, j'ai pu enchaîner directement avec une licence pro conception au design de l'emballage. Là, c'était l'éclat total parce que projet sur projet, c'était très, très cool. On a pu rencontrer plein de monde, des belles personnes, des beaux conférenciers. Et c'est un domaine qui m'a vraiment plu et ça m'a permis sur ces deux, enfin c'est l'IUT plus la licence, de faire des stages déjà sur Paris, notamment chez Lonsdale Design, donc qui est une grosse agence de communication sur Paris où j'ai pu toucher au premier travail sur le pack graphique pur, notamment avec Lint, avec beaucoup de beaux clients comme ça. Et ça a été vraiment pour moi un déclic de me dire « ouais, c'est vraiment ça que je veux faire ». Donc voilà, j'ai fait 3 ans sur Paris du coup, donc j'ai fait les premiers stages et ensuite j'ai intégré Pulp Design, qui est une belle agence aussi sur Paris, où pareil, j'ai intégré une équipe d'une dizaine de designers créatifs, il y avait des designers exécutifs, il y avait tous les métiers, et c'était ultra intéressant parce que très riche. Bon, malheureusement, ça s'est fini au bout de 6 mois en licenciement économique, donc ça, c'est la partie avec un peu moins de chance. Un client qui avait fait faux bond, et du coup, ils avaient dû répercuter ça sur les équipes, mais bon, à l'époque, je devais avoir 23, 24 ans, donc c'était pas très grave, on sait rebondir facilement. J'ai intégré une autre agence qui s'appelle Streamline, où j'ai passé 1 an et demi, où pareil, de beaux projets, on était moins nombreux, mais il y avait du designer volumique, du designer graphique, c'était assez sympa, et là, bah, nouveau rebondissement, relicenciement économique, parce que le patron avait décidé de vendre la boîte. Donc voilà, c'était l'occasion pour ma compagne d'époque, qui est aujourd'hui ma femme, de se dire, c'est peut-être le moment de quitter Paris, de se dire, voilà, d'aller voir autre chose ailleurs, quitte Paris, et on en profite pour faire un petit break à l'étranger, et on a passé 3 mois au Sénégal à travailler dans une pouponnière. Donc rien à voir avec le côté design, mais beaucoup plus avec le côté humain, se rapprocher vraiment de l'humain, et c'était vraiment une expérience assez folle et qui a laissé des traces, parce que aujourd'hui voilà, ça fait partie de mon expérience, de ce que j'ai vécu, et je me suis rendu compte que l'humain était ultra important pour moi, d'accompagner des gens, et c'était quelque chose que j'avais en moi et que je voulais faire plus tard, ou au moins si je pouvais l'associer dans mon métier, ce serait génial. Et revenant du Sénégal, voilà, il fallait s'installer quelque part et on a choisi Lille. Parce que moi, j'avais déjà un peu de famille sur l'île. Il y a possibilité de s'intégrer assez facilement. Il y avait déjà Decathlon qui me trottait en tête. Alors, pourquoi Decathlon ? Parce que déjà, le domaine du sport, même si je ne suis pas un grand pratiquant de sport, je suis assez passionné par le sport. Et il y avait toujours ce petit souvenir d'Hécatlon de moi plus jeune, où je me souviens d'un Hécatlon avec la moquette verte. La moquette verte, c'était vraiment il y a longtemps. Et le souvenir des premiers produits que j'ai quand j'ai fait du sport plus jeune, hein, les premières chaussures de foot, c'était des Kipsa, les premiers skateboards, c'était des Hécatlon. Donc, il y avait ce souvenir-là qui m'attirait. Donc, du coup, j'ai postulé. En 2015, j'ai pu rentrer en tant que graphiste packaging pour le sport Art & Go à l'époque. Donc, j'avais une mission de 6 mois pour refaire leur charte graphique. Et à partir de là, j'ai rencontré pas mal de monde et j'ai pu intégrer assez rapidement le process packaging. Donc, il y a un process central chez Decathlon qui fournit ses services à l'ensemble des besoins du packaging chez Decathlon. Et à partir de là, voilà, c'était les premiers graphistes intégrés. Graphiste packaging intégré que prenait le process packaging, et j'aurais pu faire partie des premiers où j'ai travaillé pour Domios, pour Oxelo. J'ai fait pas mal de sport comme ça, mais j'avais la volonté de dire voilà, c'est bien, on a les bases du métier, mais comment on peut l'amener plus loin? Comment on peut donner plus d'importance à la partie vraiment design packaging, donc la partie communication, la partie marketing, la partie identitaire? Donc, ça faisait partie de mes plans de développement et j'ai pu petit à petit prendre de la responsabilité en ayant l'animation des freelances, parce qu'on fonctionnait avec quelques freelances. Donc, j'ai repris l'animation de freelance et j'ai pu, dans un même temps, construire et animer le réseau Design Packaging. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le réseau? C'est que j'ai rassemblé autour d'un même événement ou plusieurs événements dans l'année les designers packaging. Donc, on a une quarantaine aujourd'hui chez Decathlon qui travaillent autour du pack. Et en fait, de fédérer autour d'un même métier en ayant des points de passage communs. Donc là, on se voit 3 fois par an en physique pour se faire des ateliers, pour se faire des réunions avec des intervenants externes ou pas. Et puis voilà, de continuer à développer le métier. Et du coup, il y a 2 ans, suite à ça, on m'a proposé de reprendre le lead du design packaging. Donc aujourd'hui, je suis directeur design packaging. Donc mon métier, voilà, c'est dans cette continuité-là, c'est de continuer à fédérer autour d'un métier, de continuer à le faire grandir. Et aujourd'hui, j'anime aussi quelques personnes en direct. Donc j'anime 6 personnes. Donc, je les manage, je les aide. Pour moi, l'important, c'est de les faire grandir, qu'ils se sentent bien déjà chez Decathlon au travers de leur métier et les aider à grandir. Et puis, j'anime aussi 6 freelances. Et puis, avec une partie aussi intéressante qui est de développer les stratégies autour du design packaging. Donc voilà, moi, je prône fortement d'animer la compétence par la compétence, parce que je trouve ça très important d'être animé par quelqu'un qui comprend notre métier et... si possible qu'il l'ait fait avant, mais au moins qu'il le comprenne et qu'il ait cette fibre-là, parce qu'on se sent mieux porté et beaucoup plus soutenu à travers ça. En fait.
Du coup, les équipes design chez Decathlon, design packaging, c'est à la fois du volume et du graphisme, ou des compétences différentes et des gens que tu animes ensemble. Comment ça s'organise en termes de compétences vraiment projet?
Alors, aujourd'hui, la conception, quand on parle de conception pure, donc volumique plus graphique, on a un binôme en face de ça. On a plutôt l'ingénierie qui va s'occuper de la partie volumique, donc avec toutes ces notions techniques, et plutôt le designer qui va s'occuper de la partie graphique. Mais c'est vraiment un travail de binôme, c'est-à-dire que les besoins du designer peuvent se répercuter sur le besoin volumique et vice-versa, en fait, de trouver des solutions et les meilleures solutions pour que les deux s'allient parfaitement. Et c'est vraiment un vrai travail de binôme sur cet aspect-là, en fait.
Mais en tous les cas, quand vous parlez, vous, de designer packaging, vous parlez donc plus du côté marque?
Plutôt du côté graphique.
Ok. Je te laisse continuer sur... Donc, il y a ce binôme qui intervient sur le packaging. Et ensuite, comment ça s'organise par rapport aux produits, par exemple, puisque ce qu'on met à l'intérieur du pack, comment ça s'organise chez Decathlon?
Alors, le pack fait vraiment partie du développement produit, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas commercialiser... un produit la plupart du temps sans packaging, parce qu'il y a toutes ces normes d'info légales. Il faut rappeler les fonctions principales du packaging, hein, qui sont de protéger, de transporter dans un premier temps, et après aussi de communiquer et séduire. Aujourd'hui, le packaging s'intègre plus ou moins tôt en fonction de l'importance qu'on veut donner au produit, à la valeur du produit, enfin à la valeur de communication du produit. Quand on va partir sur du packaging, qu'on va dire standard, il ne va pas être tout début l'intégration de la chaîne de création de produit, mais il va arriver dans un second temps. Quand on est sûr du produit, qu'on est sûr de ses dimensions, on va pouvoir commencer à travailler sur le packaging et aller jusqu'au bout. Quand on va parler d'un produit qui est valeur d'image, quand il y en a chez Decathlon, en exemple, dans les plus gros valeurs d'image, il y avait le Rollnet, par exemple. Le Rollnet qui a été une innovation, qui a créé une rupture d'usage. Il fallait mettre un pack associé à ça qui était peut-être un peu plus fort, parce qu'il y a l'importance de dire, voilà, on veut, via le packaging, aider le produit à se faire comprendre, à être mieux communiqué, à faire partie d'un tout. Donc, c'est-à-dire, on va intégrer le pack non seulement dans la protection du produit, dans la communication, mais aussi le lien qu'on peut faire avec le merchandising, le lien qu'on peut faire avec la communication. Et dans ce cas-là, le pack, il va être travaillé un peu plus tôt, parce qu'on va lui donner beaucoup plus d'importance et on va peut-être aller rechercher des leviers qu'on n'aurait pas été chercher sur un packaging plus standard, en fait.
Et aujourd'hui, par rapport au PAC, on sait que dans les cahiers des charges, ce qui intervient énormément, c'est l'impact environnemental. C'est quelque chose qui, je pense, qui pèse de plus en plus lourd. Alors, bien sûr, on peut diminuer le poids de l'emballage, enfin le poids de la matière. Mais du coup, comment vous intégrez ça, vous, chez Decathlon? Parce qu'en plus, vous avez des produits qui se vendent sans PAC, entre guillemets. Hein. Si on prend la tente 2 secondes, on ne la met pas dans un carton, on va juste mettre une étiquette. Donc, est-ce que c'est une tendance de dire on va essayer de supprimer le PAC en termes de volume et donc cet ajout de matière? Ou est-ce que non, de toute façon, il y a des produits qui continueront toujours à être emballés? Et comment vous gérez cette notion d'impact environnemental?
Alors, c'est une bonne question parce que c'est un des sujets, je pense, les plus importants chez nous. Hein. Le packaging, finalement, c'est un déchet avant tout. Et même pour nous, au service packaging Decathlon, le meilleur packaging, c'est celui qui n'existe pas finalement. Donc là, tu parlais de l'exemple de la tente. Alors, il n'y a pas de packaging en carton en tant que tel, mais il y a une housse. Et on va utiliser cette fonction de la housse pour faire un packaging finalement. Et ce qui va faire en sorte que c'est un packaging durable, parce que ça sert de protection, de rangement, etc. Nous, sur la partie environnementale, on va travailler sur plusieurs points. On a déjà un gros point qui est de supprimer les plastiques à usage unique. Donc ça, c'est une des grosses priorités actuellement. C'est-à-dire tout packaging qui a une protection plastique qui va servir juste à protéger ou juste pendant le transport, on va essayer de l'éliminer et de trouver une solution alternative pour la remplacer. On va aussi travailler sur nos papiers de matières premières. Donc là, on a une équipe, nous en interne, qui est une équipe d'experts là-dessus, qui vont aller chercher les matériaux les mieux sourcés, qui vont être validés FSC, PEFC, donc toutes les normes environnementales, pour être sûr qu'elles répondent à nos besoins stratégiques et nos enjeux stratégiques sur l'environnement. On va aussi animer les usines packaging sur la réduction du CO2, donc à travers diverses actions. Là-dessus, je ne suis pas le plus spécialiste, mais voilà, on a vraiment des grosses actions là-dessus. Et en conception pure, l'enjeu, ça va être d'utiliser le juste niveau de matériau, en fait. C'est-à-dire ni trop peu, ni pas assez. Enfin, ni trop peu, ni trop, tout court. Au niveau graphique, on va se pencher sur l'utilisation des encres, leur impact, donc la composition de l'encre, le taux d'ancrage. On commence à développer ça pour aller encore plus loin. Et derrière, on essaye en fait de capitaliser un maximum sur ce qu'on développe et sur l'impact de chaque composant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir packaging sans prendre en compte l'impact de celui-ci sur la planète. Fortement.
Tu parlais du taux d'ancrage sur les emballages. C'est une problématique qui est prise de plus en plus en compte aujourd'hui. Vous êtes 40 designers packaging. Donc, comment vous arrivez à prendre ça en compte? Est-ce que vous avez développé des chartes packaging? Qui les a développées? Et comment vous mettez ça en application derrière en fonction des différentes marques? Parce que quand on a une marque, dire on va diminuer le taux d'ancrage, faire évoluer la charte, c'est une chose. Quand on est chez Decathlon et qu'on a X marques, comment on arrive à appliquer ces directives sur nos X marques et comment on arrive à faire descendre sur l'application des différentes chartes?
Alors nous, en fait, au process pack, on va définir ces règles de base sur le packaging, que ce soit graphique ou volumique. Là, sur ma partie, la partie graphique, on va définir des règles standards, donc sur le taux d'ancrage, sur la composition des packs, sur les chartes. On part du parti pris qu'on n'est pas 15 marques, 30 marques ou 40 marques chez Decathlon, mais on est un Decathlon. Et ensuite, on va créer des déclinaisons en fonction des sports. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai mes équipes internes avec qui on va travailler pour définir la structure principale de la charte sur les différents packs, donc peu importe le sport. On va définir les règles de déco-ancrage et toutes ces règles-là de construction. Et ensuite, ça va être un document qui va servir de base, qu'on va venir partager avec les sports. Et différents graphistes PAC que j'ai, qu'on a au PAC qui travaillent au contact des sports, vont utiliser ce document-là pour après l'approprier au plus proche du sport et au plus proche de l'univers du sport pour répondre aux besoins du client de demain, en fait, sur ces sports-là. Donc, on conçoit tout au process packaging, qui est un process central, pour ensuite diffuser les règles et puis que chaque sport se base sur ces règles-là pour définir leur propre identité derrière.
Et tout à l'heure, au tout début du podcast, tu nous disais que vous faisiez intervenir des indépendants. Du coup, les agences, vous les faites intervenir plutôt aussi sur l'identité, sur la partie branding du pack, ou c'est varié?
Alors aujourd'hui, des agences, je fais appel à très peu, c'est plutôt des freelances, donc des gens autonomes. Oui, on peut les faire intervenir sur ces points-là. En fait, ça dépend vraiment du besoin et de l'approfondissement qu'on a besoin d'avoir et des spécialités de chacun. Aujourd'hui, j'ai un panel de freelances avec certains qui sont plus experts sur l'illustration, d'autres qui sont plus experts sur la réalisation de notices, d'autres qui ont un côté identitaire un peu plus fort. Donc, en fonction des profils, on arrive à ajuster. Et l'idée, c'est que même les règles qu'on fait au central ou même les règles qu'on va définir en sport, ce ne soit jamais des personnes isolées qui le fassent, mais ce sera des groupes de projets où on peut partager facilement, mutualiser les savoir-faire de chacun pour aller au plus précis dans le travail, en fait.
Et tu fais appel à ces freelances, c'est par rapport à votre charge de travail ou c'est vraiment par rapport aux compétences? Alors, comment tu répartis les projets entre l'interne et l'externe?
Alors, à la base, c'est par rapport à la charge de travail. Donc, aujourd'hui, nous, on arrive à définir sur une année la dose de travail qu'on aura, donc de savoir à quel moment on aura besoin de ces personnes-là. Et après, voilà, moi, j'essaye de varier en fonction de leurs compétences pour être sûr qu'en fonction des besoins que je vais avoir et des fois des spécificités, parce que des fois, on a des projets qui arrivent un peu entre deux qui étaient non prévus, et ben d'avoir, en fait, sur ces ressources-là, de capitaliser dessus pour associer la bonne personne au bon projet, alors que ce soit en interne ou en externe, mais de s'appuyer sur les... En fait, les externes, nous, on appelle ça les externes, donc les partenaires vont nous aider à gagner en flexibilité par rapport à la charge et par rapport au type de projet qu'on peut recevoir. Donc, d'avoir un panel assez varié de profils. Donc, ils sont tous graphistes à la base, graphistes ou designers, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, ils ont tous leurs spécificités et ça nous permet, nous, de savoir sur qui on va appuyer en fonction du type de projet qui va arriver.
Et j'ai une question sur... la valeur perçue, toujours liée au packaging, liée donc à ce contexte d'impact environnemental où on va diminuer les taux d'ancrage, on va essayer de diminuer le packaging en lui-même. Donc finalement, il y a moins d'espace pour communiquer. Est-ce que le packaging reste quand même pour toi un levier pour la valeur perçue de la marque et du produit? Et sur le peu d'espace qui reste, quels sont, on va dire, un peu les qu'est-ce que tu vois un peu comme tendance ou comme levier pour continuer quand même à faire valoir la marque?
Alors, je ne sais pas si je vais être le plus objectif pour répondre, parce que pour moi, je suis persuadé, et si je suis encore dans ce milieu-là après une dizaine d'années, c'est que je suis persuadé que le packaging a un fort impact sur la perception d'une marque ou sur l'aide au choix du client ou sur convaincre le client que le produit est le meilleur. Donc oui, je suis persuadé que le packaging, il a un impact. Aujourd'hui, oui, forcément. Si je parle de Decathlon, nous, ce qui va nous bloquer, c'est qu'on est une marque internationale et on a le marquage légal qui va avec. Et donc aujourd'hui, on est sur 35 langues à traduire sur le dos de pack à chaque fois qu'on met un mot, avec autant de normes légales par pays. Donc on travaille dessus pour le réduire un max. Donc forcément, ça laisse un minimum, ça laisse moins de place pour la partie, on va dire, plus marketing ou communication. Mais l'idée, et ça, on a tendance des fois à l'oublier quand on conçoit, c'est que le packaging ne peut pas tout supporter. En fait, le packaging, il ne vit pas tout seul, il vit rarement tout seul, mais il vit dans un milieu, dans un linéaire, dans un magasin, donc avec tout ce qui va être le merchandising, comment il va être agencé avec les PLV, ILV. Et aujourd'hui, pour moi, c'est là où on peut gagner en force et c'est là où le packaging trouve toute sa place et qu'il va vivre avec ses autres éléments et trouver le meilleur équilibre possible pour se différencier. Aujourd'hui, je pense, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une étude qui était sortie à un moment sur qui posait la question à différents clients de se dire: vous avez déjà acheté un produit juste pour son packaging? Et je crois qu'il y avait 70% de réponses oui. Alors, c'était pas chez Decathlon, c'était plus dans le milieu agroalimentaire et surtout dans l'agroalimentaire, c'est très vrai. Mais là, aujourd'hui, le packaging a un réel impact sur la vie qu'on peut avoir sur le produit. Je pense qu'il n'y a rien de pire de vouloir acheter un beau produit, mais que le packaging derrière soit mal conçu, donc il craque de tous les côtés, de le recevoir cabossé, de voir le produit cassé à l'intérieur, ou d'avoir un packaging tout simplement, on va dire, moche, pour faire simple, et de l'offrir comme tel, en fait. Donc le packaging, pour moi, il a vraiment un impact fort sur l'image de marque et sur l'aide au choix ou l'aide à la vente pour le client.
Ok. Et donc là, tu parlais des multilangues sur vos packaging. Si tu devais nous dire, voilà, dans un cahier des charges aujourd'hui, la ligne pour nous la plus importante, enfin la contrainte la plus importante en termes de pack et donc d'image, hein, puisque vous travaillez le volume, on a dit, c'est plus les ingénieurs qui s'en occupent, mais vous, au niveau du design, quel est finalement ce qui a le plus d'impact dans votre travail?
En termes positifs ou négatifs, du coup?
On va dire positif, quand même.
Non, ce qui a le plus d'impact dans ce qu'on va faire, c'est surtout le facing même du packaging, donc la charte qu'on va appliquer, soit en fonction de l'univers, soit une charte commune, mais se dire comment... La première question qu'on va se poser, c'est: est-ce que mon produit va être compréhensible? Et est-ce que le client va comprendre ce qu'est le produit, donc ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il va être convaincu que ce produit est le meilleur pour lui en rapport avec la concurrence? Donc ça, c'est vraiment, l'élément le plus important quand on travaille un pack, c'est celui-ci.
Et vous avez quand même un univers très particulier pour concevoir vos packs, parce que finalement, vous vendez vos produits dans des magasins qui sont dédiés à vos marques. C'est-à-dire que tu parles de concurrence, mais le client va mettre en concurrence, mais pas directement dans le point de vente, puisque vos produits ne sont pas intégrés dans des points de vente multimarques, multimarques, mais de Decathlon. Donc, vous avez aussi cette particularité-là à gérer, je suppose.
je ne sais pas si c'est une particularité, c'est peut-être que ça simplifie, on va dire, les choses qu'on n'a pas, ou non, justement, ça ne la simplifie peut-être pas parce qu'on n'a pas cet enjeu de la concurrence directe à côté. On a quelques AMI, mais pas tellement. Mais aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas que dans nos magasins. En fait, il y a beaucoup l'e-commerce qui se développe énormément aujourd'hui. Et sur l'e-commerce, on a accès à tout le monde. Même si on va sur le site Decathlon, quand on va nous commander un produit chez Decathlon et le recevoir chez nous, il faut que l'expérience packaging, parce que là, on parlait beaucoup des packaging de vente, donc le packaging qu'a le client entre les mains, mais nous, on traite tous les aspects du packaging. Donc, on a le packaging de vente, mais on a aussi le packaging de logistique, notamment celui en e-commerce. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le carton e-commerce parce que c'est d'une certaine façon le magasin qui vient chez vous. Il faut que cette expérience-là soit aussi bien, voire meilleure que celle qu'on peut avoir en magasin. Parce que si on crée une déception déjà là-dessus, on perd de la crédibilité auprès du client. Donc, même si on a très peu de concurrents dans nos magasins, il faut que les axes de travail sur lesquels on va être présent ailleurs, donc soit sur la vente à d'autres qui commencent à arriver, ou même l'e-commerce, on soit aussi fort et pas qu'on se loupe là-dessus. Donc c'est là où le packaging a vraiment une importance forte sur l'image de marque.
Très bien. Eh ben, je pense que on va s'arrêter sur notre podcast parce qu'on a largement entamé nos 20 minutes. Donc merci beaucoup, Jérémy.
Merci à toi.